Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour, bienvenue au club Média RH. Vous savez que chaque week-end, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider à recruter votre futur employeur. On le répète, mais c'est une évidence. Chaque semaine, chaque week-end, on termine en la compétence au quotidien avec des offres d'emploi et on termine en beauté avec le club Média RH, avec des invités qui recrutent, des sujets décryptage RH, des solutions RH et la start-up qui recrute. Alors, on va démarrer, bien sûr, par l'entreprise qui recrute dans quelques minutes avec Hugo Manoukian. Il était venu en tant que start-up et là, aujourd'hui, eh bien, l'entreprise explose. 2015, c'est la création. 40 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une quinzaine de postes à pourvoir. L'entreprise se développe en France et surtout à l'international et on va y venir. Dans cette première partie, nous sommes ravis d'ouvrir la porte Solution RH, notre revue Solution RH, avec Damien Criquet, cofondateur et associé du cabinet de recrutement Test, je vais y arriver. C'est qui a mis au point ce cabinet, un laboratoire d'échange de réflexion pour les cadres dirigeants en situation de transition. Très intéressant. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. La seconde partie, on termine par la start-up, la petite nouvelle qui arrive, qu'on a vue pour la première fois. Là, il s'agit de 30 postes à pourvoir avec la société Shipeo. 204% de croissance au premier semestre. C'est assez rare pour le dire, cette entreprise est le leader européen des solutions de visibilité en temps réel. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. On recevra également en deuxième partie Julien Gouairan. Je garde ça pour le suspense. Vous savez, chaque mois, c'est un partenariat avec BVA Opinion. Une enquête qu'on a souhaitée et qui va faire du bruit sur le thème « Les salariés français et le masque au travail ». Comment réagissent les Français avec le masque au travail? Eh bien, vous allez en savoir plus dans quelques minutes. Assez surprenant dans les deux sens, d'ailleurs. J'en dis pas plus. On appelle un teasing. Allez, c'est parti pour l'entreprise qui recrute. On y va. Move One, c'est elle. 15 postes à pourvoir.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Bonjour Hugo Manoukian.
Bonjour.
Ravi de vous revoir. Donc, on a eu l'occasion déjà de vous interviewer. On vous a connu tout petit comme ça. C'est vrai, hein?
C'est vrai.
Tout petit comme ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. La start-up. Et là, et tant mieux. J'espère qu'on vous a aidé.
Ça nous a plutôt réussi.
Voilà, ben tant mieux. Tant
merci.
Mieux. Et j'espère que ça va continuer. Alors, on va vous expliquer qui vous êtes. Votre entreprise, je l'ai dit dans le sommaire, date de 2015.
Oui.
Oh, c'est plus vraiment une start-up, hein.
On est en train de passer à une nouvelle étape, c'est vrai.
Voilà. Vous avez choisi de démocratiser, ça c'est le job qui est le vôtre, oui. Démocratiser le coaching digital et ce à l'international. Je vous laisse nous présenter l'entreprise d'abord.
Tout à fait. Donc Move One, c'est une start-up qui édite une solution pionnière du coaching digital en entreprise.
Ça veut dire quoi?
Donc concrètement, c'est que l'on propose, notre vision déjà, c'est de libérer le potentiel humain pour accélérer les transformations que vivent les grands groupes, parce que beaucoup de notre cible aujourd'hui sont dans les grands groupes. Et pour ce faire, on propose des parcours de coaching en visioconférence avec une communauté de coachs dans le monde entier en plus de 30 langues et la possibilité concrètement de travailler sur libérer son leadership, gagner en agilité ou bien mieux gérer des situations de stress.
Alors vous dites que votre fierté c'est d'abord d'avoir pu démocratiser le coaching en France et à l'international, c'est-à-dire démocratiser.
C'est que tout simplement le coaching était réservé à une élite pendant très longtemps. C'était une pratique plutôt
voilà. Et les stars,
exactement.
Déjà, les stars ont un coach, n'est-ce pas?
Exactement.
Les chefs d'entreprise, les managers ont un coach et.
Et maintenant, grâce à nous, grâce au digital aussi, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent bénéficier d'un coach personnalisé. Alors que ce soit en one-to-one ou en collectif,
ouais.
Les deux aujourd'hui sont extrêmement puissants pour permettre de dépasser des freins, des croyances, des limites et d'avancer dans sa vie.
200 clients en France, 60% du CAC 40, bravo.
Oui, c'est vrai.
Ça fait rêver.
On est très content. On a réussi à convaincre, non pas juste en disant offrez du coaching à tous, mais vraiment en intégrant des parcours de coaching dans des programmes de formation, de développement des compétences. Et ça, c'est une grande fierté. Et comme on vous l'avait dit, on commence à le faire à l'étranger.
C'est la solution digitale qui est en fait aujourd'hui le grand succès, quoi. C'est le digital qui a permis et qui permet, pas seulement pour vous, mais dans tas de domaines, de faire exploser le système.
Tout à fait. Et notamment dans une période aujourd'hui, on le voit bien. Nous, on était pionniers depuis 5 ans et on prenait l'usage du digital. Maintenant, c'est plus une réalité qui s'impose aussi à nous. Et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises se disent c'est le bon moment de digitaliser ma formation des managers. Alors, en y rajoutant du coaching.
Expliquez-nous, ça veut dire quoi digitaliser? Pour que je comprenne, je ne suis pas le seul. Vous faites du coaching en entreprise, ça on est d'accord. Du coaching de haut niveau?
Oui.
Vous dites que vous avez des coachs un peu partout dans le monde?
Exactement,
c'est
on travaille
ça, c'est
en 30 langues.
Des coachs sportifs?
Ah non, c'est des coachs en management.
J'ai oublié de vous poser la question, parce que ça paraît...
C'est vrai, c'est des coachs professionnels certifiés par des différentes fédérations internationales de coaching. Donc j'allais dire, c'est le gratin de ce qui se fait dans le coaching exécutif, coaching de manager.
Je fais exprès de vous dire, parce qu'on peut... Comme je ne l'ai pas prononcé,
c'est vrai.
Coach management, il fallait le dire.
Et donc c'est du coaching qui permet de libérer son potentiel sur des soft skills, concrètement, sur des sujets d'actualité pour chacun des personnes. Et on le fait en 30 langues, dans le monde entier. On accompagne des clients comme Vinci, comme Saint-Gobain, comme L'Oréal et d'autres qui ont des populations mondiales. Et maintenant, ce que l'on veut faire, c'est devenir le leader européen de ce marché-là, qui est un marché en pleine ébullition aujourd'hui au niveau international.
Alors, pour être coach au niveau international et de haut niveau, il faut soi-même avoir une compétence connue et reconnue. Comment faites-vous pour sélectionner vos coachs?
Alors nous, d'abord, c'est des gens qui viennent du monde de l'entreprise, comme vous l'avez dit, et qui ont acquis leur galon au sein des différents grands groupes. Et ensuite, c'est des personnes qui se sont formées au coaching, parce que là aussi, ça ne suffit pas d'avoir l'expérience, il faut aussi avoir les compétences concrètement d'accompagnement des personnes. Et enfin, c'est des gens qui ont une fibre digitale pour être capables de créer une bonne relation à distance.
Alors, on est à l'étape de l'international avec vous. Ça date de quand? C'est il y a quelques mois, c'est récent.
Alors, il faut savoir que MoveOne travaille déjà, comme je le disais, depuis maintenant de nombreuses années. Maintenant, c'est vrai que ce passage-là à aller en Benelux, en Suisse et dans d'autres régions...
Pour ouvrir des bureaux.
Pour ouvrir des bureaux concrètement et atteindre les grands comptes de ces zones-là, ça c'est assez récent. Ça a été pendant le confinement qu'on a ouvert nos premiers bureaux, en tout cas fait les premières démarches. Et là, on compte accélérer en 2021 avec l'objectif d'ouvrir 4 zones en Europe, notamment la zone Allemagne, Nordics et UK dans les prochaines années.
Alors si vous êtes là, c'est parce qu'on a, on va essayer de tout faire pour vous aider à recruter vous-même des talents, comme on dit. On va peut-être y aller, quoi. Vous avez une quinzaine de postes à pourvoir. Est-ce qu'on peut en parler et les détailler?
Quinzaine de postes à pourvoir vraiment immédiatement et il y en a d'autres qui arrivent...
C'est urgent.
C'est urgent.
En CDI,
bien entendu, basé sur Paris ou en remote, en fonction à distance, donc en fonction des profils. Dans ces postes-là, un poste de DRH, notamment, qui doit structurer notre croissance, parce qu'on compte passer d'une cinquantaine aujourd'hui de salariés à un peu plus du double d'ici à quelques mois. Ensuite, on recrute également des profils commerciaux, grands comptes, des gens qui ont envie de travailler avec des clients de renom et de les aider à digitaliser leur processus de coaching. On recrute également des développeurs logiciels qui sont aussi le nerf de la guerre dans notre industrie.
Alors plusieurs séries de questions toutes bêtes et j'ai envie de dire basiques. Où ces postes sont-ils à pourvoir?
Alors principalement à Paris.
Là où se trouve le siège du...
Le siège, voilà, est dans Paris 17e.
D'accord.
On a des très beaux bureaux en plus, donc c'est aussi agréable, même si on garde une part de télétravail importante aujourd'hui, de se retrouver dans un lieu qui est sympa. Et ensuite également des postes à l'international, donc en France pour certains postes pour des activités
qui peuvent se faire à distance, etc.
Exactement, mais également des postes à l'international, donc Amsterdam va être un gros hub pour nous de développement, mais également la Suisse et demain l'Allemagne.
Est-ce qu'on peut imaginer que vous embauchez aujourd'hui en France, demain en France, des profils qui vont aller ensuite à Amsterdam?
Tout à fait.
Mais ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à les aider, vous allez les accompagner pour s'installer?
Tout à fait, l'objectif... L'objectif, honnêtement, c'est d'avoir les meilleurs talents. C'est des gens qui...
Jusqu'où êtes-vous prêt à aller, justement?
Pour le succès, on est prêt à aller loin. et c'est vrai que l'objectif... Voilà, encore une fois, notre vision, nous, c'est d'accompagner nos équipes. Par exemple, toutes nos équipes ont un coaching dans le cadre de leur...
Elles-mêmes.
Elles-mêmes sont coachées. Et je pense que c'est essentiel dans le plan de développement. On propose également de l'accompagnement, notamment sur des pays, notamment, par exemple, les Netherlands, la Hollande est un pays spécial, donc il va falloir aussi comprendre un petit peu l'écosystème du pays.
Bien sûr.
On a déjà des équipes sur place qui peuvent aider aussi à cette intégration et on a des bureaux qui sont prêts à les accueillir.
Deuxième question basique, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? C'est-à-dire qu'en général, il faut avoir des sous quand même quand on engage 15 nouveaux collaborateurs.
Tout à fait.
Comment faites-vous ? Vous avez des fonds ?
Oui, alors il faut savoir qu'on a déjà...
C'est une entreprise familiale. Hein.
C'est une entreprise familiale, vous l'avez
pas annoncé. Il y a votre papa, je me souviens, il y a votre papa qui a démarré, vous êtes avec vos frères.
Exactement.
Enfin, c'est une belle entreprise, il y a une bonne ambiance.
On travaille avec mon frère Axel et en effet avec mon père Alain avec qui on a créé cette entreprise. Maintenant, c'est une entreprise familiale, mais qui a... Ça peut aller aussi avec une forte ambition de développement et c'est la nôtre. Donc en effet, on avait fait une levée de fonds de 2 millions d'euros il y a de ça un peu plus d'un an. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir accélérer dans les prochains mois. Donc wait and see, comme on dit, et voyons comment on arrive à goupiller tout ça. Mais notre objectif, c'est clairement de pouvoir être un acteur reconnu en Europe et donc d'avoir les moyens de nos ambitions.
En tout cas, la réponse est oui, vous avez les moyens de payer les gens.
Oui, ça, je confirme.
Encore une question d'ordre purement RH. Quelle est l'erreur à ne... J'aime bien ce genre de question. Quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut vous séduire ? Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business TV, quelle est l'erreur à ne pas commettre si on voit dans les postes que vous avez proposés, j'ai envie de postuler, je vais me retrouver face à vous, ou, je ne sais pas si c'est vous qui faites le recrutement.
Si, en partie.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne... pas être capable d'aller à la recherche de l'information. Moi, j'apprécie les candidats qui sont prêts à s'investir même pendant le processus de recrutement.
Oui, c'est un minimum, quoi.
C'est un minimum.
Qu'ils aillent voir sur le site qui vous a...
Qu'ils aillent voir, qu'ils s'imbibent de ça et qu'ils m'apportent. Ouais. Qu'il ne faut pas faire, c'est juste d'être dans une posture d'attendre les questions. Et de non pas aller me chercher même moi sur la vision que j'ai de l'entreprise, de me challenger aussi, parce que ce que j'attends moi c'est vraiment des partenaires, c'est pas juste des salariés, c'est vraiment des gens qui vont nous aider à atteindre nos ambitions.
Ça c'est la qualité numéro une que vous attendez.
Oui.
Quelqu'un qui est prêt à s'engager.
Exactement.
Parce que l'entreprise est en croissance.
Ouais.
Il y a des postes à prendre, il y a des promotions à prendre.
Des responsabilités. Et ça va être une aventure. Voilà, c'est une aventure qui est déjà exceptionnelle et je pense qu'on a des équipes très engagées et on veut garder cet esprit de volonté, d'ambition très fort que l'on a déjà su avoir.
Merci Hugo Manoukian. Petite question toute bête, est-ce que c'est un rapport, vous êtes de la famille du musicien Manoukian?
Alors famille éloignée, certainement, mais il n'y a pas de piste. Mais je peux jouer du piano.
Ah, d'accord. À la fin de l'année, c'est vous qui faites la fête et le Père Noël. Merci à vous. Bonne chance. J'espère qu'on va vous aider à nouveau sur cette quête de collaborateurs. Voilà, on passe à la séquence suivante. Vous restez avec nous. Est-ce que, de votre côté, vous savez ce que c'est qu'être en transition dans la vie ?
Oui, je
le sais. Être un cadre et se retrouver en transition.
Oui, je le sais.
C'est pas une situation toujours facile.
Et ce n'est pas évident, honnêtement.
Et c'est bien d'être aidé.
C'est essentiel, à mon avis. Aujourd'hui, si on veut réussir sa transition, il faut être accompagné. Sinon, on passe aussi à côté, peut-être, d'opportunités.
Eh ben, c'est une belle transition, justement, que vous me proposez. Voici notre rubrique Solutions RH avec un cabinet expert dans ce domaine.
BFM Business, le club média RH. Solutions RH.
Bonjour Damien.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer. Alors, on est dans la transition pure. Vous dites que vous avez mis au point un modèle unique sur le marché de la transition de carrière. On va en parler. On est dans cette rubrique Solutions RH. Parlez-moi un peu de vous d'abord. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce marché ? Vous êtes le fondateur d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Test, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. Votre parcours, c'est parce que vous vous êtes retrouvé vous-même dans cette situation ?
Non, moi ça fait 20 ans que je suis expert dans...
Que vous êtes en transition.
Dans le recrutement et 20 ans de transition certainement.
Ouais. Damien Créquet. C'est Créquet.
Créquer,
pardon.
Exactement.
Ça s'écrit C-R-E-Q-E-R.
C'est pour les Bretons, voilà.
Créquer. On prononce comme s'il y avait un accent. Excusez-moi. Allez-y, oui.
Moi ça fait 20 ans en fait que je suis rentré dans l'expertise d'être un chasseur de tête.
Ouais.
Et ça dans les domaines aussi bien des médias, de la communication et du marketing. Et j'ai eu l'envie d'innover dans le marché en fait de l'outplacement, donc de la transition professionnelle, parce que on accompagnait énormément les candidats et on s'est rendu compte qu'ils avaient un besoin d'accompagnement plus fort.
Alors, load placement, c'est l'anglais pour parler de position, en fait. Donc, vous vous êtes intéressé, c'est votre carrière depuis 20 ans, donc ça, vous avez l'expertise. Donc, l'idée, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, bien sûr, toute une population de cadres dirigeants même, c'est votre cible, de cadres dirigeants qui, à un moment donné, dans leur carrière, se retrouvent en situation de transition. Bon, ils ont quitté une boîte, il faut qu'ils rebondissent, comme on dit.
On avait constaté qu'il y avait une sorte, un peu comme dans la vie personnelle certainement, une sorte de crise de la moitié de la vie professionnelle, de la quarantaine, la cinquantaine, peu importe, à la limite, c'était de la moitié.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on constatait que les candidats avaient besoin d'un projet plus clair pour se dire quelle va être la deuxième partie de ma vie professionnelle. Parce que la première partie, elle construit souvent de proche en proche. On prend un premier poste, puis un deuxième, on prend des responsabilités, on évolue au sein de l'entreprise. Et puis, tout d'un coup, arrive cette période de transition qu'on n'a pas forcément choisie. Et à ce moment-là, en fait, il y a un vrai retour vers soi où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour les 20 ans à venir? Parce que pour la première fois, je vais rechercher du travail pour la première fois après mon diplôme.
On n'est plus dans la conquête, on est dans la... C'est ça, on est
exactement
dans la conquête, mais c'est plus cette conquête un peu désordonnée.
On n'a pas le même moteur. Les 20 premières années de la vie professionnelle, souvent, on les fait sur l'ambition, sur le fait de prendre plus de responsabilités. Et puis sa vie professionnelle, personnelle, souvent, s'étoffe aussi. Là, généralement, il y a une besoin de donner plus de sens et de contribuer plus profondément. Et du coup, on a voulu construire un vrai programme qui permette d'avoir ce retour vers soi et de mieux définir ce qu'on appelle un projet de cœur. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qui va me motiver pour les 20 ans à venir de la vie professionnelle.
Alors, vous avez mis au point Transition Lab.
Transition Lab, exactement.
Transition Lab, en anglais. Transition Lab. Vous avez raison, c'est tout simple. Le nom est tout est dit. C'est un laboratoire d'échange, de réflexion et d'action destiné donc aux cadres dirigeants dans leur étape de transition de carrière. Une stratégie de moyens centrés sur le retour à l'emploi qui intègre coaching individuel, co-développement de la formation. Ça se passe où, à Paris?
Ça se passe à Paris, puisqu'on a des locaux dans un espace de coworking dans le 8e.
D'accord.
Et donc, on voulait que ça ait lieu aussi au sein du cabinet, donc ça a lieu dans nos locaux.
Et en général, est-ce que vous pouvez nous donner le profil? Vous venez d'en parler, pratiquement, le profil type du cadre de transition. C'est quelqu'un qui a créé déjà par ambition, qui a monté les échelons, qui est arrivé à une position de cadre dirigeant. Il a 20 ans de carrière en moyenne, c'est ça?
En moyenne, il a 20 ans de carrière.
Il est divorcé, il est marié.
Non, ils sont plutôt mariés ou divorcés, mais non, pour l'instant, c'est pas forcément le sujet. C'est surtout qu'ils exercent au sein d'un comité de direction.
D'accord. Qu'est-ce qui leur est arrivé en général?
L'entreprise,
des statistiques.
Si on regarde, c'est que l'entreprise s'est réorganisée dans lequel ils étaient et qu'on leur proposait pas le projet qui les motivait.
Et plus leur place.
Et donc ils ont opté pour la rupture conventionnelle, qui est en fait qui a été le gros accélérateur des départs dans les entreprises.
C'est vrai.
Dire, en fait, j'ai pas forcément envie de me battre pour rester. Et j'ai envie de pouvoir trouver plus de place. Et c'est le moment pour moi de changer aussi.
On peut dire que c'est une opportunité, la cassure?
Oui, tout à fait.
Une fois en chinois, on répète souvent qu'en chinois, le mot crise et le mot opportunité sont le même. Donc là, c'est encore la preuve que c'est le cas.
Exactement, c'est vraiment le cas. Parce que en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que les gens ont, une fois passé la période de deuil, de se dire, j'avais telle responsabilité, telle identité, j'ai l'opportunité de pouvoir projeter ma vie professionnelle, de pouvoir rencontrer d'autres gens et de pouvoir avoir quelque part un game changer dans ma carrière.
Parlons de votre Transition Lab.
Ouais.
Ça dure combien de temps? C'est un programme, expliquez-nous. C'est du digital, c'est de la rencontre humaine avec des collaborateurs?
Alors,
avec vos collaborateurs?
C'est un programme en présentiel à la base, même si avec le Covid, bien sûr, on a accéléré les solutions digitales, mais plutôt en présentiel parce que ça a une force. On a voulu créer des promotions.
Ouais.
Déjà, c'est un système qui regroupe 5 à 6 personnes qui ont eu des responsabilités différentes au sein de l'entreprise et qui sont rassemblées au sein d'un même collectif et qui démarrent ensemble et qui vont finir ensemble, si on singe un peu ce que le film disait. Donc, ça va durer 6 mois. Ils vont se retrouver toutes les semaines. Ils vont être animés par un coach professionnel certifié qui s'appelle Milela Lubic, qui est une coach formidable, qui leur apporte aujourd'hui, par les techniques du co-développement notamment, la capacité à justement analyser ce qui se passe dans cette situation.
Qui paye Damien Créquer? Qui paye tout cela?
On a voulu que cette solution soit directement accessible pour les candidats. 75% des gens se le payent directement.
Ah oui, avec leurs indemnes.
Exactement. Ils se le payent avec leurs indemnités parce qu'ils considèrent que c'est un investissement
pour le futur
vraiment nécessaire et qu'ils ont envie d'accélérer le fait de trouver le bon projet professionnel.
Comment mesurer votre taux de réussite? Pardon pour la question, mais retour.
Vous avez parfaitement raison, on l'a fait. On a mesuré, en fait, au bout de 8 mois, combien de personnes avaient réussi à atteindre leur projet professionnel. Et 87% des gens atteignent ce projet professionnel au bout de 8 mois.
Ça veut dire quoi, atteindre son projet?
Ils ont trouvé un job où ils ont créé une entreprise, où ils ont créé une activité d'indépendant.
Oui, vous êtes un cabinet de recrutement en même temps. Est-ce que vous leur trouvez un job, ceux qui s'inscrivent
chez vous? Ça arrive.
C'est pas le but de l'opération.
C'est pas le but de l'opération. Nous, notre but, c'était en tant que cabinet de pouvoir s'investir auprès de ces candidats et de les aider. Oui. Et de leur donner toute la bonne boîte à outils pour qu'ils aillent vite et de leur ouvrir nos réseaux. Bien sûr, il y a des candidats à l'intérieur du Transition Lab qui nous intéressent pour nos missions. On s'interdit pas de les considérer, heureusement. Mais c'est pas l'objectif et on voulait vraiment un espace qui soit clair, d'ailleurs, sur ça. Oui. Et pas vendre aux gens le fait qu'ils seraient sur nos missions. Nous, ce qu'on allait les aider, c'est à trouver leur propre job.
Damien, dans cette période compliquée avec le Covid, on ne sait pas où on va, etc.
Exactement.
Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver encore plus en situation? Vous allez vous retrouver avec plus de propositions, de demandes, de cadres, de cadres.
Oui, on a clairement une accélération.
Est-ce que vous le ressentez ou pas?
Oui, on a clairement une accélération liée à une. En fait, beaucoup de décisions. Les clients d'ailleurs nous l'expliquent très bien côté recrutement. En fait, le Covid nécessite de prendre des décisions organisationnelles qu'on ne prenait pas avant. Ouais. Ou qu'on aurait pris dans les 2 ans. Donc ça a accéléré les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce phénomène justement de digitalisation. On investit massivement dans le digital en ce moment. Ouais. Donc oui, on a une accélération du nombre de candidats. À côté de ça, il y a aussi une accélération du nombre d'opportunités pour d'autres candidats. Donc, et on le voit, je trouve que, vous le voyez, il y a vraiment ces startups qui créent des nouvelles formes d'emploi. Donc il faut réussir à aller capter ces nouvelles formes d'emploi. Et c'est ça qui est le plus dur.
Vous dites qu'ils arrivent à peu près à 20 ans, le profil type, c'est homme ou femme d'ailleurs, peut-être plus d'hommes que de femmes, mais non.
Non, c'est assez équilibré.
En tout cas, ils arrivent, ils ont pratiquement 20 ans de carrière, ils se sont battus, ils ont été ambitieux, ils avaient les dents longues, là ils veulent arriver à une nouvelle étape. Quelles sont les attentes des entreprises sont différentes par rapport à leur entrée sur le marché? Aujourd'hui, s'il fallait résumer, aujourd'hui, vous qui êtes au contact des entreprises dans ce qu'elles recherchent, qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, c'est que les entreprises, quand elles recrutent quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, elles ne recrutent pas qu'un profil. Elles recrutent quelqu'un qui vient pour une mission, qui a un projet très clair.
Le cas d'un dirigeant.
Voilà. Et on amène beaucoup les candidats à réfléchir en termes de proposition de valeur. C'est-à-dire de dépasser simplement de savoir s'ils vont être choisis eux en tant que profil, mais de savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'entreprise. Et on le voit, les dirigeants du coup d'entreprise, on se sont amenés à se positionner et dire, est-ce que, en fait, je choisis le projet ou est-ce que je choisis pas le projet?
Hugo Manoukian, je vous vois écouter avec beaucoup d'intérêt. C'est normal, vous êtes dans le coaching, vous. Je ne sais pas si les cadres dirigeants représentent un pourcentage important pour vous.
On en accompagne pas mal, c'est vrai.
Voilà. Vous entendez, vous y retrouvez des choses que vous vivez vous-même auprès de dans les témoignages que vous recevez.
Oui, très sincèrement. Alors là, l'exemple était en sortie d'entreprise et comment personnellement j'aimais beaucoup l'idée d'apporter une promesse, la promesse de valeur. Qu'un individu peut proposer à un nouveau projet. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup, en fait, de managers restent parfois en interne, changent de périmètre en interne, mais ils sont autant amenés à se re-questionner sur leurs pratiques, sur qu'est-ce que je vais apporter à ce nouveau secteur, service que je prends en responsabilité. Le monde aujourd'hui est en train de transformer beaucoup de choses à ce niveau-là, et il faut que les gens soient équipés pour justement faire face à des transformations. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est hyper intéressant en fait ce que
Damien
dit Hugo, parce que je retrouve exactement ça. C'est-à-dire que la surprise en fait de notre programme, c'est que des clients en fait font appel à notre programme pour accompagner aujourd'hui des personnes qui sont en poste pour les aider à se bouger dans l'entreprise. C'est-à-dire à réussir à avoir bougé dans le sens à changer de poste.
Mobilité interne.
C'est bien sûr qu'ils sont, c'est des gens qui sont actifs, mais à réussir à avoir une mobilité interne. Donc en fait, on a des clients qui ont des gros marchés internes. On fait appel à nous aujourd'hui pour créer des pilotes et
faire du mouvement, créer du mouvement.
Voilà. Alors au départ, c'est marrant parce qu'on a été d'ailleurs interrogé sur des femmes sur ce sujet-là, pour les aider à passer ce qu'on appelle le plafond de verre, puisqu'en fait, ils avaient constaté qu'elles étaient trop sur « regardez mes résultats, vous devriez me prendre pour ce poste de dirigeant », et n'acceptaient pas que c'était un jeu et une compétition. Et on a réussi à leur faire casser ça, et comme ça a marché sur les femmes, ça marche sur les hommes maintenant.
Ben dites-moi, c'est le ballon d'essai avec les dames, et maintenant, vous le mettez en place avec les hommes. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance, je ne vous demande pas si vous recrutez, mais...
On a toujours des recrutements, et notamment sur des postes juniors, sur des postes de chargé de recherche au sein du cabinet.
Parfait.
Et puis, même des seniors, on est toujours ouvert.
Merci Damien Créquer. Voilà, on va continuer avec le Club Média RH avec d'autres invités en seconde partie. Merci Hugo Manoukian.
Merci beaucoup.
Bonne chance avec vos 15 postes à pourvoir et j'espère qu'on vous a tous les deux apporté un coup de booster. Allez, on continue. On est là pour ça.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
Si vous nous suivez régulièrement sur BFM Business télé ou radio, vous savez qu'une fois par mois, on ouvre la porte à une enquête dont nous avons l'exclusivité avec notre partenaire BVA Opinion, une enquête sur le thème RH, bien sûr. Et je pense que l'enquête dont on va avoir les résultats avec vous, Julien, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Julien Goharan, directeur BVA Opinion, j'espère qu'elle va vous bluffer. On a choisi les questions, les thèmes. Eh bien, on s'est posé la question. Comment les salariés, tout confondu, toute structure confondue, et tous âges, toute génération et à travers la France, eh bien, réagissent face à la décision de porter le masque en entreprise? Je pense que ça va faire bouger et que vous allez en entendre parler. Alors, mon cher Julien, c'est une enquête qui a été menée en septembre. Sur un panel, comme on dit, représentatif.
Exactement. De salariés. 1002 salariés représentatifs en termes de région, secteur d'activité, statut, sexe, par exemple.
Voilà. Alors, on va aller dans le détail tout de suite. On va rentrer dedans, comme on dit.
Oui.
Alors, la première question que vous leur avez posée à tous, c'est sur votre lieu de travail, diriez-vous que le masque, alors oula, il fait des propositions,
oui.
Le masque est, comment dire, ensemble, enfin, respecté par vous-même,
ou pas.
Respecté par vos collègues, etc.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que les salariés, finalement, respectent le port du masque en entreprise?
Voilà, est-ce que vous le respectez, est-ce que vos collègues le respectent? Ouais. Hein, ben 92% nous disent qu'ils le respectent.
Ah oui, quand même.
Ce qui veut dire quand même que il y a un niveau, de ce point de vue-là, d'acceptabilité du masque à la fois. Dans la société en général, hein, puisqu'on sait que l'acceptabilité du masque, elle est très très forte dans l'opinion.
Ouais.
Mais dans l'entreprise aussi, 91% nous disent qu'ils respectent. Et ils nous disent aussi 88% que leurs collègues respectent. Et ça, c'est une particularité dans la plupart des entreprises. Ce qu'on constate, c'est que sur le respect des règles, hein, moi je respecte, par contre les autres ne respectent pas. Hein, vous avez 70% qui disent respecter tel ou tel code, mais par contre les autres, c'est toujours le problème, ils ne le respectent pas. Or là, on voit qu'il y a une vraie cohérence, et de ce point de vue-là, c'est vraiment sous-tendu par cette relative peur, ou en tout cas, le sentiment d'une acceptabilité très très fort et d'un geste barrière que représente le masque, qui est un geste légitime.
Alors, le port du masque est respecté par vous-même, c'est la question que vous leur avez posée,
oui.
à 61%.
61% nous disent tout à fait respecté, 31% nous disent plutôt respecté.
Ça, alors, c'était la
c'est
première
une,
question.
C'est aussi une des difficultés du port du masque, c'est que parfois il se décroche un peu, parfois on se lève de son bureau, on oublie de le remettre. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits gestes du quotidien qui sont plus ou moins compatibles avec le port du masque et qui font que d'un point de vue structurel, il y a toujours une petite déperdition. Mais c'est l'acceptabilité qui est surtout à souligner et le fait qu'on voit ses collègues comme des gens qui sont scrupuleux de ce point de vue-là. Et donc on n'a pas le sentiment de venir en entreprise et de subir une forme de mise en danger. Si les collègues, par exemple, ne respectaient pas cette obligation.
Je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'il allait avoir moins de respect du masque. Une plus grande révolte, en quelque sorte, dans ce qu'on entend. Alors, deuxième question, vous avez prononcé le mot incompatibilité. Vous l'avez posé la question aux Français. Le port du masque sur le lieu de travail, estimez-vous qu'il est compatible avec votre activité professionnelle? C'est important comme question.
Oui.
Et là encore, surprise.
Alors, surprise relative, hein, c'est-à-dire qu'il y a la...
Surprise dans le sens où les gens disent que n'est pas compatible à 33%.
Voilà, 33%, ce qui fait quand même un salarié sur trois, ouais. Ce qui fait quand même 8, 9 millions de salariés, mais c'est pas rien, et qui nous disent que c'est pas compatible, la majorité... mais c'est pas forcément la majorité qui fait tout, nous dit que c'est compatible. Dans la plupart des métiers, en fait,
65%.
Il y a 65% nous disent que c'est compatible. Dans la plupart des métiers, le sentiment qui domine, c'est que, certes, c'est contraignant, mais c'est compatible avec l'activité professionnelle.
Ouais.
Alors, compatible ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des impacts. Mais en tout cas, ça ne gêne pas de façon trop importante l'activité professionnelle. En revanche, quand on est pour 33% des salariés, notamment dans le commerce-restauration, notamment pour les ouvriers, notamment pour le secteur de la construction. Là, on a des secteurs dans lesquels...
On est presque à 100% de fait, pas compatible.
De fait, non, on n'est pas à 100%. Mais vous avez une majorité qui vient nous dire que ce n'est pas compatible. À partir de ce moment-là, on voit bien que la mise en place d'une mesure qui est une mesure contraignante, globale, universelle, d'une certaine manière, pour les salariés, elle se heurte à des réalités métiers et que pour les salariés qui doivent faire avec ces réalités métiers, il y a des adaptations permanentes à faire pour respecter les règles.
Alors, question suivante. Évidemment, depuis le 1er septembre dernier, le port du masque est obligatoire, évidemment, au sein des entreprises publiques et privées, ainsi que dans les espaces clos et partagés, les salles de réunion, les open space, couloirs, vestiaires, bureaux, je liste, hein. Bureaux
oui.
partagés, ben, il faut le rappeler.
C'est ce qu'on leur rappelait dans le questionnaire, voilà, de manière à ce que tout le monde ait la même base de connaissances pour répondre aux questions.
Oui, mais justement, j'en profite pour rappeler, parce que c'est vrai que c'est aussi dans les couloirs, les vestiaires, les bureaux partagés, les espaces cafés ou cafétérias, bon... même si la distanciation physique d'un mètre entre salariés peut être respectée, vous leur avez posé la question, à propos de cette mesure, diriez-vous qu'elle est pénible au quotidien, efficace, compatible avec votre activité, et elle rend difficile le travail? La réponse est salariée.
La réponse, c'est que si tout le monde applique, tout le monde est aussi conscient de ce que ça représente au quotidien. Et pénible, par exemple, au quotidien sur le lieu de travail, 79%. Donc, on a ajouté à la question de la santé en entreprise, et du bien-être en entreprise, du bien-être au travail, une mesure qui est quand même une mesure qui rend davantage pénible le travail. D'où le fait que plusieurs salariés peuvent essayer de recourir davantage au télétravail, et des entreprises aussi, en dehors des indications de l'État.
Ce chiffre est important.
Oui.
79% des salariés disent que c'est pénible au travail.
Oui. Et ils le respectent.
Raison. Et ils le respectent.
Et
vous avez raison que ça conduit peut-être, et ça va conduire peut-être un peu plus, de télétravail.
Absolument.
Cette pénibilité.
Exactement.
Alors, il y a une autre réponse que l'on voit d'ailleurs à l'image. Réduire, est-ce que vous pensez que ça réduit...
Efficace.
Voilà, est-ce que c'est efficace porter le masque au travail, dans les couloirs, etc. Est-ce que c'est efficace pour réduire la propagation de la Covid, on doit dire la Covid-19,
oui.
en entreprise? La réponse?
Et la réponse, c'est oui à 73%.
Ce qui
explique
ils en sont
un
convaincus.
Petit peu le score d'acceptabilité.
Oui, oui.
C'est-à-dire que,
exact.
Étant donné que ça a dans l'esprit des salariés une vraie efficacité, au moins pour 3 sur 4, hein, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a un petit quart qui considère que ce n'est pas très efficace. Le fait que ce soit efficace est ce qui soutient cette acceptabilité. Alors, c'est pénible, mais c'est efficace.
Et il y a, à l'intérieur même de cette question sur l'efficacité et la pénibilité, il y a une des questions que vous avez posées. Vous avez proposé un choix. Est-ce que cela rend difficile le travail collectif? Là, ça explose. On est à 60%.
Oui, exactement.
Que ça pose problème.
60% et tout secteur confondu.
Et tout secteur confondu.
Tout secteur confondu, c'est 60% qui nous disent que, globalement, ça réduit la capacité à faire du travail collectif, ça le contraint, et c'est de ce point de vue-là une question à moyen terme qui peut poser dans certains secteurs d'activité une vraie difficulté. Et sur toutes ces questions, c'est souvent les plus jeunes qui sont pas les plus précautionneux.
Ouais,
c'est-à-dire
que
c'est chez les plus jeunes qu'on rencontre à la fois le sentiment que c'est peut-être pas très efficace, et d'autre part aussi une acceptabilité qui est un peu plus faible. Les 18-34 ans se distinguent un petit peu. petit peu par le fait de respecter un petit peu moins ces règles, d'une part, et de considérer un peu plus qu'elles ne sont pas efficaces.
C'est assez surprenant. Moi, je suis assez surpris par le fait que, globalement, les salariés, comme les chefs d'entreprise, comme les entreprises, ont pris acte et jouent le jeu en portant le masque en entreprise.
Exactement.
Bien qu'on ne soit pas obligé de le porter là, par exemple, on a espacé de 2 mètres, vous et moi, on n'en a pas forcément besoin, mais...
Mais le salarié est aussi un citoyen. Et dans le cadre de la citoyenneté, on voit que l'acceptabilité est très très forte. Et là, ce qui sous-tend, c'est essentiellement la crainte la crainte pour les autres, dans tous les messages qui sont ressassés depuis maintenant 6 mois, en continu, et qui ont très largement perlé dans l'opinion.
Alors, on continue cette enquête avec les résultats de cette enquête que vous avez menée au niveau national, Julien Goiran. C'est la dernière question. C'est, selon vous, est-ce que le port du masque en entreprise pourrait entraîner une perte d'efficacité dans votre travail? Là, on est dans le dur, on est avec le collaborateur lui-même,
oui.
Le salarié lui-même.
Oui.
Qu'est-ce qu'il répond?
Alors, on a vu qu'il y avait de la pénibilité, qu'elle était reconnue dans le port du masque, mais il y a aussi un impact qui est un impact très opérationnel. 39% nous disent oui, c'est une perte d'efficacité dans mon travail.
Alors, c'est 54% disent non.
Voilà. Et 54% disent non. Donc un salarié sur 2 nous dit non. 4 sur 10 nous disent oui, c'est une perte d'efficacité dans mon travail. Alors c'est une vraie problématique, hein, puisque dans l'exercice aujourd'hui, la plupart des entreprises sont reparties dans un cycle relativement classique d'activité. Même s'il y a davantage de télétravail, elles ont retrouvé des niveaux d'activité qui sont dans la plupart des secteurs en cohérence avec ce qu'ils connaissaient avant. Par contre, ils ont des salariés qui sont 4 sur 10 à vous dire aujourd'hui je ne peux pas être aussi efficace qu'avant. Aujourd'hui j'ai un certain nombre de contraintes, dont le masque, qui sont des contraintes opérationnelles sur lesquelles je vois que d'une certaine façon mon efficacité décroît, ma productivité décroît et d'autre part j'en subis une forme de pénibilité. Ça demande évidemment une logique d'accompagnement qui ne peut pas être une logique où on essaye de pointer du doigt les salariés ou à les contraindre à une productivité qui serait incompatible avec la réalité de la pénibilité de cette situation et de leur capacité, avec un masque, mais aussi avec d'autres mesures, à continuer à exercer leur travail sereinement.
Merci Julien. Vous restez avec nous?
Oui.
On va parler de la start-up qui cartonne et qui recrute. 204% de croissance au premier semestre. C'est vraiment, j'ai jamais entendu une entreprise qui puisse faire... Eh bien, c'est le cas avec l'entreprise du jour. Chipéo et Pierre Coury, qui est CEO et cofondateur, va nous parler de ses postes à pouvoir, une trentaine. Coup de pouce à une jeune pouce. C'est parti.
BFM Business. Le Club Média RH, la start-up qui recrute.
Alors Pierre Coury, vous avez écouté avec attention, vous vouliez commenter, vous étiez déjà en train de commenter avec notre ami Julien, qui reviendra le mois prochain avec une autre enquête. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous envoyer un petit message, vous pouvez l'envoyer sur contact@mediarh.com. Eh bien, si vous avez des propositions d'enquête, on est prêt à vous suivre, hein, n'hésitez pas à le faire pour le mois prochain. Alors, je viens vers vous. 204% de croissance au premier semestre 2020. Pour vous qui vous positionnez comme le leader européen des solutions de visibilité en temps réel, c'est quoi la solution de visibilité en temps réel?
Oui.
Je me mets à la fenêtre, je suis visible en temps réel. Expliquez-nous d'abord ce job qui est le vôtre, qui est assez étonnant. C'est une start-up créée en 2014. Hein.
Exactement, bah merci de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Donc effectivement, Chipéo, on développe une plateforme de visibilité pour le transport routier de marchandises. Voilà.
D'accord.
La niche, le secteur, c'est le transport routier de marchandises. Et ce qu'on offre, hein, c'est de permettre aux grands donneurs d'ordre, distributeurs, industriels, d'avoir une visibilité sur leur livraison de marchandises en camion complet, en colis, et donc de mieux informer leurs clients. Voilà.
Prenons un exemple concret. Bon, on est sur BFM Business TV, moi j'ai le retour d'image, on voit un camion, mais ceux qui nous suivent à la radio, on va essayer de leur expliquer. Un transporteur, ouais, qui va d'un point A au point B, voilà. Quel est votre apport?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Les transporteurs se sont équipés au cours des 20 dernières années en système informatique, hein, de suivi
digital et rentré dans les camions.
Alors, en système de gestion, ils ont fait cet effort depuis, ouais, longtemps maintenant. Les donneurs d'ordre ont aussi investi dans des systèmes et finalement.
Prenons un exemple concret.
Les donneurs d'ordre, ça va être des distributeurs, hein, comme Leroy Merlin, Decathlon, Auchan.
D'accord.
Voilà. Et donc, les systèmes ne se parlaient pas. C'est-à-dire que les deux populations avaient des systèmes informatiques qui ne communiquaient pas. Et on va permettre ce pont informatique...
Entre qui et qui ?
Entre le distributeur... Le Roi Merlin, par exemple,
oui, Merlin.
Et ses transporteurs, une centaine, deux centaines...
Qui travaillent pour lui, pour le Roi Merlin.
Qui travaillent pour lui, voilà, mais pas que pour lui, bien sûr. Hein. Et donc, la question, c'est comment on fait communiquer les systèmes pour que le Roi Merlin puisse informer ses magasins, puisse informer ses clients d'un retard, d'une arrivée à l'heure, puisque ça arrive aussi beaucoup, gérer des exceptions, des problèmes, de façon digitale, de façon efficace, en collaboration avec ses transporteurs. Voilà ce qu'on résout, et voilà l'innovation.
Gérer les flux des chaînes, c'est ça ?
Exactement, gérer les flux de supply chain de façon digitale.
Alors, vous avez créé cette boîte, c'est étonnant de se lancer dans une activité comme celle-là, il faut une passion, et ça a l'air d'être votre cas. Comment vous est venue cette idée d'abord ? Ça paraît surprenant. Ouais. C'est parce que vous avez dit, il y a un business où il y a une place à prendre.
Alors, pour l'entrepreneuriat, moi je crois beaucoup à l'itération.
C'est-à-dire vous étiez déjà dans la logistique ?
J'étais pas dans la logistique, on a observé ce secteur-là, et je crois que l'innovation, elle vient en tâtonnant. En réalité, ce qu'on a fait, c'est d'écouter. J'aime beaucoup ce mot. On a été écouté des grands donneurs d'ordre qui nous ont fait part de leurs problèmes. On a été écouté des transporteurs. Et on a itéré, on a progressé comme ça. Oui. Et au fur et à mesure, le produit s'est construit. Oui. Voilà. Je ne peux pas dire qu'on s'est rasé un matin en ayant cette vision, cette idée. Voilà. C'est vraiment l'itération. Et beaucoup d'aventures entrepreneuriales sont comme ça, hein, comme celle de Coca-Cola, par exemple.
Oui.
Vous le savez, qui voulait créer un médicament et qui a fini avec une boisson partagée par tous. Voilà. Donc c'est souvent la vie entrepreneuriale.
Alors, premier semestre de 104%. Pourquoi, au premier semestre, d'un seul coup, 204% de croissance ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça explose comme ça ?
Oui, alors on a longtemps prêché un peu dans le désert, hein, en expliquant que voilà, un suivi informatique digital permettait à tout le monde d'être plus efficace.
Oui.
Et je crois que la situation actuelle a montré que l'investissement dans des plateformes digitales était important pour mieux maîtriser son transport, pour mieux maîtriser sa supply chain. C'était une tendance qui s'était accélérée au cours des 10-12 derniers mois. Et puis là, avec la situation du coronavirus, évidemment, ça s'est accéléré.
Parlons à présent de vous. On vient de voir passer une fiche, 130 collaborateurs, c'est ça aujourd'hui ?
Exactement, oui, on est 130.
Vous êtes 130 personnes réparties entre le siège à Paris et 7 bureaux en Europe. En France, vous êtes à Paris et Lyon, c'est ça ?
Exactement.
Et à l'étranger, vous êtes en Europe, vous êtes en Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie, Espagne, UK, et un tiers de l'équipe se consacre à la R&D.
Oui, c'est ça.
J'ai essayé de dresser
le
portrait de la société. 70 clients en Europe. Vous avez cité Leroy Merlin, on peut citer d'autres, Saint-Gobain, Schneider, etc. 32 millions d'euros levés depuis votre création en 2014, 20 millions depuis début 2020. Donc vous attirez les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils y trouvent chez vous ? C'est une pépite ?
Oui, alors, je ne sais pas si c'est une pépite, mais en tout cas, je pense qu'on est sur un bon segment. Je crois que ce qui intéresse aussi, c'est le transport routier, qui a été un secteur délaissé. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'intéressait personne.
Ouais.
Exactement. Nous, quand on a commencé à regarder les gens, ce secteur, les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant « Mais pourquoi le transport routier de marchandises ?» Et je pense qu'aujourd'hui, depuis Amazon, depuis la crise qu'on a eue, eh bien, il y a un regain d'intérêt pour la supply chain.
Et
donc, on en bénéficie comme l'un des acteurs leaders dans la digitalisation du transport et de la supply chain.
Ouais. Et le confinement a dû accélérer automatiquement les livraisons, enfin le transport de produits, puisqu'on n'allait plus, on n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit
d'aller dans les magasins. Exactement, et puis il y a eu beaucoup de perturbations dans les chaînes logistiques, et donc il a fallu mieux les suivre, et nos outils répondent parfaitement à ça.
Alors malgré le contexte difficile, sanitaire, et on espère tous que ça va s'arranger, qu'on pourra revenir à des situations beaucoup plus normales, vous continuez à recruter. J'ai dit une trentaine de postes à pourvoir, 51 embauches depuis le 1er janvier, vous n'arrêtez pas quoi.
Voilà, 51 embauches, et alors si vous voulez, ce qui a été...
Une trentaine de postes à pouvoir aujourd'hui. Allez-y.
Exactement. Oui, non, ce qui a été particulier, c'est qu'en fait, on a fait 30 embauches depuis le confinement, et dont une vingtaine pendant le confinement. Et donc, on a fait des interviews pendant le confinement, on a embauché des gens, on les a accueillis complètement à distance, et aujourd'hui, on découvre en présentiel à certaines personnes, et encore la semaine dernière, quelqu'un a sonné à la porte, et il se trouve que c'était quelqu'un qui était embauché dans la société depuis 2 mois et que je n'avais jamais vu. Voilà, donc c'est la nouvelle réalité, il faut faire avec, et comme on est dans une phase d'accélération, eh bien on veut continuer sur ces 30 embauches d'ici à décembre.
À ce jour. Alors, toujours, je vais poser un certain nombre de questions, on va voir les postes s'afficher certainement à l'image. 30 postes à pourvoir, ouverts. Mais d'abord des postes de commerciaux, si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'ordre,
je sais
pas s'il y a un ordre.
Non, en fait, un peu de tout. Une boîte doit rester équilibrée dans toutes ses dimensions. Donc, des équipes commerciales, des chefs de projet, des développeurs informatiques aussi, qui sont vraiment le cœur du moteur, mais aussi des gens aux ressources
dans le
humaines
IT,
et dans d'autres...
Si. Pardon ? Dans le IT, vous avez des recherches de senior front-end developer ?
Exactement. Alors après, il y a plein de sous-catégories hein, dans les postes de développeurs informatiques, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails.
Il suffit d'aller sur
mais
le site.
Exactement, mais tout à fait. Alors front, ça veut dire tout ce qui est écran, hein, et back, c'est tout ce qui est traitement. Voilà. Et puis intégration spécialiste, c'est-à-dire que, je l'ai dit, on se connecte à énormément de systèmes, et donc ce sont les personnes qui vont faire les ponts informatiques avec des systèmes.
Alors vous savez que dans cette émission, on parle d'emploi, de recrutement, et on met les mains dans le cambouis, on n'hésite pas, sans vouloir vous harceler, mais poser des questions simples. Hein. Vous êtes sur le point de recruter, vous souhaitez recruter, je me mets à la place du candidat, il est derrière l'écran, ou il nous écoute sur BFM Radio. Question, qu'est-ce que vous avez à offrir à un candidat qui frappe à votre porte, qui n'est pas forcément expert dans la supply chain, dans la logistique, et qui se dit, mais tiens, en fait, pourquoi pas, j'ai vu qu'il cherche un directeur d'eux, j'ai le profil, mais j'ai jamais travaillé dans ce domaine. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez des candidats ? Est-ce qu'il faut être expert déjà dans votre secteur ?
C'est exactement ce que vous venez de dire. Ce qu'on cherche, ce sont des personnalités. On ne cherche pas des gens qui viennent de l'industrie. Nous-mêmes, nous n'étions pas de l'industrie. Ce qu'on cherche, c'est des personnalités qui vont s'approprier un problème, le résoudre pendant une période donnée et qui vont passer à un nouveau challenge ultérieurement. Voilà, donc on a encore eu le cas hier soir, vous voyez, pour faire de l'informatique, il y a quelqu'un qui a postulé, qui faisait de la chimie, de la physique, et on s'est dit que c'était un très bon candidat, une très bonne candidate en l'occurrence, et donc on va la recruter. Donc vous voyez, avec des études de physique en Angleterre, pour faire de l'intégration informatique en France, donc ça n'a rien à voir, mais peut-être que dans 6 mois, elle changera à nouveau de fonction.
Alors, ce que vous avez offert, la question, c'est qu'est-ce que vous avez à offrir ? C'est quoi la possibilité de bouger, la possibilité de progresser, la possibilité de se former ? Je tape dans tous les domaines.
Je crois que la nouvelle génération cherche des challenges. Elle cherche du sens, elle cherche des challenges.
Elle ne cherche pas à faire carrière, en tout cas.
Non, elle cherche à se remettre en cause régulièrement et à progresser personnellement à travers les challenges qu'elle reçoit et auquel elle répond. Et voilà, et donc régulièrement, eh bien, il faut remettre ça en jeu, reproposer des nouveaux challenges et se remettre en déséquilibre très régulièrement, et on essaye de leur proposer ça.
Alors ça, c'était la question sur qu'est-ce que vous avez à offrir. Maintenant, ce que vous attendez d'eux, on a compris que c'est un investissement total, évidemment, comme dans toute entreprise. Je pose toujours la question, comme dans la première partie tout à l'heure avec notre ami qui recrute Hugo Manoukian, lui qui est patron de MoveOne. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ?
Oui. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé que Hugo avait très bien répondu j'aurais probablement répondu à peu près les mêmes choses, aux mêmes questions. Oui, alors on a eu la chance de faire une levée de fonds d'à peu près 20 millions d'euros en décembre, très précisément le 24 décembre 2020. Donc effectivement, on a eu de la chance.
Non, pas 2020, 2019.
2019, merci. Et donc on a pas mal de moyens pour accélérer parce que l'industrie du logiciel, effectivement, est consommatrice de capitaux.
Votre objectif à vous ? Je vous ai posé une première question, je n'ai pas été complètement... mais ce n'est pas un reproche. Je vous ai dit, mais qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous avez quel âge, sans inscription ?
Alors, j'ai 41 ans.
D'accord.
Aujourd'hui.
Vous avez entendu la dirigeante de 40 ans, hein, ce que nous a dit la vitesse.
Alors, exactement, sauf que moi, la transition, je l'ai vécu il y a 6 ans maintenant. Ah. Donc, je me suis bien retrouvé dans ce qui a été expliqué. Oui. Et je pense que c'est important, effectivement, de se remettre en cause à un certain moment et de partir sur une aventure plus personnelle, voilà, plus en adéquation avec...
Mais cette société, Shipeo. Ouais. Shipeo, il y a le mot quoi ?
Alors, il y a shipping. Puis, quand on a créé la société, c'était l'époque où Criteo était très à la mode. Et donc, on a fait un mix des deux parce qu'à un moment, il faut se lancer et il faut un nom.
Comment est-ce que vous êtes lancé dans cette activité ? Vous avez de la famille dans les transports ?
Non,
vous êtes
absolument
le fils de Laurent Merlin, c'est votre papa ?
Absolument pas. J'ai aucune famille dans le transport, ni dans le logiciel.
Comment ça vient de se lancer dans une activité ? Ça m'a toujours intrigué. Pas intrigué, mais ça m'a toujours intéressé.
Ouais. Je crois que c'est d'abord une curiosité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est curieux. Ouais. Et puis, là, on avait, dans mes activités précédentes, on aidait une société où il y avait beaucoup de transport, où on trouvait qu'il y avait énormément de papiers. Et puis, ce sont les rencontres. Voilà, on a rencontré différentes personnes qui nous ont dit, effectivement, je partage ces interrogations. On a créé une équipe qui s'est intéressée au sujet, qui sont aujourd'hui mes associés et l'équipe de dirigeants de Shipeo. Et puis, on tire la pelote de laine. On était voir des donneurs d'ordre qui nous ont dit, effectivement, moi, ce problème-là, c'est un des problèmes les plus criants. Et puis, des transporteurs qui nous ont dit, attendez, moi, je suis pas d'accord avec l'approche que vous avez, mais on vous recommanderait celle-ci. Et voilà, donc je crois que c'est l'itération de la curiosité, de l'écoute, beaucoup d'écoute, et puis progressivement les choses viennent. Et puis bien sûr, on est toujours très loin du point de départ, mais c'est pas très grave. Finalement, faut pas chercher à avoir raison, faut chercher à écouter ce que vous disent les gens. Voilà.
Alors vous êtes la dernière rubrique de l'émission. Vous avez entendu Julien Gouharan, qui est toujours avec nous dans le studio, le directeur de BVA. C'est bien ça, hein?
BVA Opinion.
Opinion, je me suis pas trompé. BVA Opinion. Vous avez entendu l'enquête sur les masques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, je me retrouvais parfaitement dans les chiffres qui ont été cités. Je crois qu'il y a un autre facteur qui est que aujourd'hui, en tout cas dans nos populations, il y a beaucoup de télétravail, c'est-à-dire que les gens préfèrent rester en télétravail que de venir au bureau. Chez nous, c'est de l'ordre de entre 10 et 20% des gens qui viennent en présentiel au bureau, et donc le reste qui préfèrent librement rester chez eux en télétravail, on n'oblige en rien. Et voilà, et ceux qui viennent, donc les 10 ou 20%, effectivement, ils sont assez assidus. Alors, modulo quelques oublis qu'ils peuvent avoir, mais sinon, ils sont très assidus dans le port du masque. Voilà, une sorte de conscience collective. Et donc, je me retrouve bien dans ce qui a été dit sur notre population.
Ça vous surprend pas, Julien?
Non, ça me surprend pas parce que, effectivement, les entreprises sont assez souples là-dessus. C'est-à-dire que certaines, même beaucoup, ne remettent pas des règles trop strictes sur le retour au travail. Et l'inquiétude liée au Covid, plus la difficulté, la pénibilité du masque, ça fait que ça crédibilise encore plus le télétravail, qui pour le coup a prouvé que sur un certain nombre de fonctions, bien sûr, puisque tout le monde ne peut
bien
pas
sûr, être pas en télétravail,
permettait d'avoir une bonne efficacité. Ouais. Et par rapport à votre expérience, cette idée d'itération, j'imagine qu'au début, mettre les partenaires autour de la table, c'est-à-dire proposer de s'intégrer comme une supply chain n'a pas forcément été évident.
Réponse courte, parce qu'on est pratiquement à la fin.
Effectivement, il a fallu éduquer le marché et il ne faut pas arriver trop tôt ni trop tard. Et aujourd'hui, il y a une vraie maturité sur le sujet.
Merci Pierre Coury, CEO et cofondateur de Shipeo. Vous avez un site, votre adresse à vous de Shipeo.
Shipeo.com, S-H-I-P-E-O.com. Tous les talents sont les bienvenus pour
postuler. Merci à vous, bonne chance, vous nous tenez au courant. Bien sûr, on espère vous avoir donné ce coup de pouce nécessaire. Mais si Julien, dans un mois prochain, qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Faut qu'on réfléchisse.
On va y réfléchir.
L'enquête
est... On aura des suggestions.
On aura des suggestions. Bon week-end, merci d'avoir été à notre écoute et recrutez votre futur employeur, c'est sur Média RH. Salut.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.